RFI, le journal 3h à Paris, minuit en temps universel.
Théo Renaudon.
L'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a pris la parole ce vendredi soir et il affirme qu'il se rendra à Goma dans les prochains jours et dénonce des décisions arbitraires de la justice au lendemain de la levée de son immunité parlementaire. Fin du cinquième round de négociations entre Washington et Téhéran sur le nucléaire iranien. Discussions qui ont eu lieu à Rome, résumé et en jeu dans ce journal. Et puis il n'a montré que la planète, toute la planète, rien que la planète. Le photographe Sebastião Salgado est mort. Il s'était exprimé à un micro RFI il y a 2 mois. La dictature doit prendre fin. Ce sont les mots de Joseph Kabila au lendemain de la levée de son immunité parlementaire. L'ancien président congolais a prononcé une allocution diffusée sur Internet, discours de 45 minutes lu sur un ton monocorde. L'ex-chef de l'État annonce qu'il se rendra dans les prochains jours à Goma, capitale du Nord Kivu, sous contrôle de l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, selon Kinshasa. En avril, l'annonce de son retour en RDC par la partie orientale du pays avait déclenché une série de perquisitions et la suspension de son mouvement, le PPRD. Désormais, Joseph Kabila est lui aussi sous la menace de poursuites par la justice militaire qu'il accuse de complicité avec la rébellion de l'AFC M23. En réponse, Joseph Kabila dénonce des décisions arbitraires, une falsification de l'histoire et un recul spectaculaire de la démocratie. Florence Maurice.
Pour justifier sa prise de parole, Joseph Kabila se présente en sauveur.
Continuer à me taire m'aurait rendu poursuivable devant le tribunal de l'histoire pour non-assistance à plus de 100 millions de compatriotes en danger.
Sous la menace d'un procès pour complicité avec l'AFC M23, Joseph Kabila confirme son intention de se rendre à Goma et dénonce une justice instrumentalisée.
Il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à se défausser sur les autres pour justifier leur contre-performance.
Jamais il ne prononce le nom de Félix Tshisekedi, mais la critique est acerbe. Il accuse son successeur d'avoir violé la Constitution à plusieurs reprises et qualifie d'illégitime les institutions du pays.
Le pays est ainsi devenu un espace de non-droit. Et la volonté du chef de l'État tient désormais lieu de loi suprême.
L'ancien président conclut son discours en appelant à un sursaut patriotique à travers un pacte citoyen en 12 points. Joseph Kabila déclare vouloir jouer sa partition et œuvrer à la reconstruction de son pays.
Le ras-le-bol de centaines de Libyens dans les rues de Tripoli, la capitale. Plusieurs centaines se sont mobilisés dans la rue ce vendredi. Ils réclament le départ du gouvernement d'unité nationale, seule autorité reconnue dans le pays par l'ONU. Les manifestants exigent la tenue d'élections dans un délai de 6 mois. Le pays peine à retrouver la stabilité depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. La majeure partie du pays est tenue par des milices. Harvard, dans l'œil du cyclone, la justice américaine bloque la dernière décision de l'administration Trump, décision d'interdire l'inscription d'étudiants étrangers dans l'université. 7000 d'entre eux pourraient perdre leur visa. Un quart du corps étudiant de l'institution vieille de 400 ans est concerné. Une audience préliminaire de la justice sur cette affaire doit se tenir jeudi prochain. À Washington, Guillaume Nodin.
La juge fédérale du Massachusetts, où se trouve Harvard, s'est rendue aux arguments de l'université, au moins jusqu'au début de l'examen de l'affaire sur le fond. D'un trait de plume et sans aucune justification juridique, le gouvernement cherche à effacer un quart des étudiants de Harvard, est-il écrit dans la requête en suspension validée. Et s'il a été déposé en urgence, c'est parce que la décision de l'exécutif était censée s'appliquer immédiatement. Elle aurait des conséquences lourdes pour l'université et ses étudiants étrangers, qui sont environ 7000 sur le campus. Ils représentent une ressource financière importante, puisqu'ils payent des droits d'inscription élevés. Ceux qui sont déjà inscrits n'auraient le choix que de se faire transférer dans une autre université ou de perdre leur statut légal aux États-Unis et donc risquer l'expulsion. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les professeurs étrangers en visite. Ce serait donc des conséquences académiques également très lourdes. L'administration Trump le sait, comme elle sait que s'en prendre aux universités élitistes de la côte Est est payant politiquement avec sa base électorale. Elle reproche à Harvard de laisser prospérer des activités antisémites et anti-américaines sur son campus. Elle lui reproche également son refus de fournir des informations sur ses étudiants étrangers des 5 dernières années. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Une femme de 30 ans a poignardé plusieurs Allemands dans la gare d'Hambourg, au nord du pays. 18 blessés sur un quai de la gare de cette ville, la deuxième la plus peuplée d'Allemagne. Le pays subit depuis ces derniers mois des attaques meurtrières à répétition. En progrès, mais peut mieux faire, c'est en somme le bilan de la cinquième série de discussions entre Iran et les États-Unis sur le nucléaire iranien. Discussions qui se sont achevées ce vendredi après plusieurs jours de tensions affichées entre les deux parties. Quelques progrès ont été murmurés à la fin de la rencontre. À Téhéran, Siavosh Ghazi.
Les négociations sont trop compliquées pour qu'elles puissent aboutir en deux ou trois réunions, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Il a toutefois ajouté que les discussions de ce vendredi avaient été sérieuses et que les États-Unis avaient une meilleure vision de la position de Téhéran. Une nouvelle rencontre doit avoir lieu, mais pour l'instant, aucune date n'a été fixée. Ces derniers jours, la question de l'enrichissement d'uranium a été au centre d'un bras de fer entre Téhéran et Washington. Plusieurs responsables américains ont en effet affirmé que l'Iran devait renoncer à son programme d'enrichissement d'uranium. De leur côté, les responsables iraniens ont affirmé qu'il n'était pas question d'abandonner ce programme. Abbas Araghchi a même affirmé qu'il n'y aura pas d'accord sans que les Américains reconnaissent ce droit. Les pays occidentaux accusent Téhéran de vouloir utiliser son programme nucléaire pour la fabrication de l'arme atomique, ce que Téhéran dément. Aucun détail n'a filtré sur cette cinquième série de discussions, mais la question de l'enrichissement est au centre du bras de fer entre Téhéran et Washington. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Tout n'est pas tout à fait revenu à la normale entre l'Inde et le Pakistan. Islamabad prolonge d'un mois l'interdiction de son espace aérien aux avions indiens. L'Inde a fait pareil. Il y a 15 jours, les deux pays frères ennemis ont connu leurs pires affrontements militaires de l'histoire. 70 morts par drone, missile et tir d'artillerie. Le groupe français Total Énergie assure qu'il maintient ses objectifs de transition écologique et ce, en dépit du contexte économique mondial incertain. Certains dû aux guerres commerciales américaines. Message adressé à ses actionnaires réunis en assemblée générale aujourd'hui à Paris, à l'intérieur d'une immense tour de verre, siège du groupe. À l'extérieur, des militants écologistes se sont rassemblés pour dénoncer la poursuite d'exploitation d'énergie fossile par Total Energy. Il fait chaud, très chaud, trop chaud aux Émirats Arabes Unis. Record à plus de 50 degrés à Londres. C'est inédit pour un mois de mai depuis 2003 dans ce pays désertique du Golfe. Le nombre de jours extrêmement chauds a presque doublé dans le monde en trois décennies, relèvent les scientifiques. Des photos en noir et blanc montrant le pire des hommes et le meilleur de notre planète. Le photographe franco-brésilien Sebastião Salgado est mort. Il avait 81 ans. L'autodidacte a photographié toute la planète, rien que la planète, du Rwanda à l'Indonésie, de la guerre à la paix. Son portrait par Edmond Sadaka.
Un chasseur de lumière dans un monde de ténèbres. Voilà comment le président brésilien Lula décrit le travail de Sebastião Salgado. Car le photographe avait approché de très près, en effet, les ténèbres aux quatre coins de la planète, du Rwanda au Guatemala en passant par l'Indonésie ou le Bangladesh. Derrière son objectif, il a su capter les tragédies humaines, les exodes, les guerres, les famines, des épreuves qu'il avait profondément marquées à tel point qu'il avait songé tout arrêter après avoir couvert le génocide au Rwanda au milieu des années 80. Certains lui ont reproché de trop esthétiser ces images, des critiques qu'il a toujours ignorées. Sebastião Salgado s'était beaucoup engagé également dans la lutte contre le réchauffement climatique, en sublimant des paysages magnifiques, notamment en Amazonie, faisant de ce travail un plaidoyer en faveur de ce combat. Avec son épouse, il avait fondé un projet écologique qui a permis à plus de 3 millions d'arbres d'être plantés dans son état natal de Minas Gerais, au Brésil.
Edmond Sadaka du service culture de RFI. De la bière, du soleil et beaucoup de joie, des dizaines de milliers de supporters se sont massés au nord de Londres ce vendredi pour fêter la victoire de Tottenham en Ligue Europa. Les joueurs étaient venus présenter leur trophée remporté mercredi, titre remporté face à Manchester United à Bilbao. C'est la fin de ce journal, merci de m'avoir suivi. Rappel du premier titre d'actualité de notre journal, l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, a pris la parole ce vendredi soir. Il affirme qu'il se rendra à Goma dans les prochains jours et dénonce des décisions arbitraires de la justice au lendemain de la levée de son immunité parlementaire.